Géothermie, roue à eau, panneaux solaires, éoliennes, tu ne veux pas dépendre de Hydro-Québec, il y a des moyens.
Le biogaz est plus performant sur le plan des GES que l'hydroélectricité.
Il y a l'énergie libre qu'il nous cache, car cette énergie ne coûte rien à fabriquer et gratuite, tout comme les voitures qui fonctionnent à l'eau.
Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de Votre tweet est important pour nous, la série balado où on aborde les sujets qui vous font réagir sur les médias sociaux. Et autour de cette table, il y a les gens qui vous répondent. Pierre-Alexandre Buisson.
Bonjour.
Gabriel Leblanc.
Salut.
Et Jonathan Côté.
Allô.
Dans cet épisode, on aborde autre chose, donc d'autres sources d'énergie que ce dont on parle habituellement. Et pour nous en parler, nous recevons Marie-Ève Daou, qui est ingénieure de formation. Bonjour, Marie-Ève.
Bonjour.
Donc, Marie-Ève Daou, vous êtes dans l'équipe de développement du potentiel énergétique. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça mange en hiver, cette équipe-là?
Oui. Dans le fond, notre équipe a pour objectif de faire une vigie sur l'ensemble des sources de production renouvelables qui existent un peu partout et de faire des études pour approfondir un petit peu plus chacun de ces domaines-là. C'est sûr qu'en priorité, on étudie beaucoup plus l'hydroélectricité pour essayer d'identifier les meilleurs sites puis voir s'il y a d'éventuels projets qui pourraient être développés. Mais en parallèle aussi, on regarde toutes les autres sources alternatives, comme par exemple l'éolien, le solaire et tout ce qui existe un peu là, pour essayer de voir si on pourrait pas combiner différentes sources pour diversifier un petit peu le parc de production d'Hydro-Québec et recommander.
Et répondre aux besoins du Québec. Excellent.
Exactement.
Justement, on a quelques commentaires qui nous ont été acheminés au fil des dernières années. Pierre-Alexandre?
Ben, je vais briser la glace pour toi. Aria, qui nous dit, attache tes bretelles parce que c'est un long commentaire. Au lieu d'exporter les surplus d'hydroélectricité aux États-Unis, Hydro-Québec devrait transformer, stocker et exporter de l'hydrogène propre produit par électrolyse avec de l'hydroélectricité aux États-Unis et à travers le monde. Signe de pièce. En effet, la seule solution verte, viable et rentable pour remplacer le pétrole et décarboner les transports routiers, ferroviaires, maritimes et aériens à l'échelle planétaire, c'est l'hydrogène propre.
Bon.
Est-ce le cas?
C'est sûr qu'à l'heure actuelle, bon, l'hydrogène vert est une solution qui peut rentrer dans l'équation de la décarbonation. Puis c'est sûr qu'on, c'est clair que le, tout ce qui est le secteur de l'automobile et du transport demeure un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Cependant, pour produire de l'hydrogène, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Puis, on sait que l'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie. Dans le fond, c'est le vecteur qui va permettre, une fois transformé, de produire de l'énergie, soit pour le stocker ou pour l'utiliser dans un véhicule. Donc, toute la chaîne, justement, pour la transformation de l'hydrogène, pour le stockage, le transport, puis ensuite la conversion en énergie, cette chaîne-là est vraiment énergivore. Donc, c'est peut-être pas la solution idéale pour tous les usages. Par contre, tu sais, peut-être en intégrant ça pour le transport lourd, ça pourrait devenir une option. Mais pour l'ensemble de la flotte de véhicules, je pense pas que c'est la meilleure solution. On est peut-être mieux de penser à réduire peut-être le nombre de véhicules par ménage ou d'y aller peut-être être plus...
Plus économe.
Il y a certains endroits aussi, je pense qu'on parlait, par exemple, des procédés industriels pour lesquels ce serait très difficile d'électrifier directement. Peut-être que là, il y aurait une place pour l'hydrogène à ce moment-là.
C'est ça. Bien, en fait, l'hydrogène vert peut être utilisé aussi pour du stockage. Donc, utilisé comme stockage, un peu comme une batterie. Mm-hmm. Puis, avec cette batterie-là, on peut faire de l'électricité. Fait que oui, ça serait une solution. Par contre, c'est ça. Comme c'est très énergivore, c'est pour pouvoir produire suffisamment d'hydrogène pour alimenter l'industrie ou ça, ça prend, par exemple, beaucoup de...
C'est des choix. Mais c'est drôle, j'ai l'impression que c'est récent quand même qu'on entend autant parler d'hydrogène qu'on a autant l'impression que c'est la solution à tout. Toi, est-ce que dans ton équipe, c'est quelque chose que vous étudiez depuis longtemps?
Bien, tu sais, c'est sûr qu'on le regarde plus en surface parce que pour des... Comme mesure énergétique, c'est pas ce qu'on privilégie nécessairement là, parce que... C'est ça. Comme je l'ai dit, là, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, mais c'est certain qu'on regarde un peu ce qui se passe actuellement dans les médias là, avec les... comme à Shawinigan, l'usine qu'ils veulent développer. On regarde ça un petit peu plus de loin. C'est plus une vigie. Mais à l'heure actuelle, ça ne demeure pas dans les choix primordiaux là, qu'on voit.
Mais on n'exclut pas que ça pourrait faire partie de notre trousseau.
Ça pourrait, effectivement.
Et que ça pourrait être produit dans les heures creuses, par exemple.
Exactement. T'sais, ça pourrait être associé, effectivement. Ça pourrait être associé à un parc éolien. Quand on est en surplus d'énergie éolienne, ben on pourrait utiliser cette énergie-là pour produire de l'hydrogène puis le stocker le stocker. Puis quand on aurait un creux puis qu'on aurait besoin d'un peu plus d'énergie pour répondre à la demande, mm-hmm. bien là, on pourrait, via une pile à combustible, retransférer de l'énergie.
Dans le cas, je pense, du projet dont tu parlais comme à Shawinigan, là, c'est vraiment l'hydrogène qui sera utilisé dans le cadre d'un procédé industriel, non pas pour faire de l'électricité avec. Donc, vraiment, ça fait partie de quelque chose qu'on n'aurait pas pu utiliser l'électricité de toute manière. Donc, là, il y a peut-être une place, justement, dans un avenir décarboné au Québec, où dire, OK, pour certaines filières industrielles, l'hydrogène aurait sa place.
Si je ne m'abuse, l'hydrogène ne peut pas être contenu dans le même genre d'emballage ou de réservoir qu'un gaz normal.
Non, c'est ça. En fait, là, je ne veux pas me mêler dans mes termes, mais tu sais, ça demande... Il faut la compresser dans le fond ou la liquifier pour réussir à la mettre pour la contenir dans un réservoir pour la stocker. Fait que c'est ça, il y a l'extraction. Ensuite de ça, il faut justement changer son état pour pouvoir le stocker. Et ensuite de ça, le transporter. Principalement, c'est un peu des pipelines, excusez-moi l'anglicisme, là, mais une canalisation. Ça, au Québec, on n'a pas vraiment là, pour...
C'est une situation quand même complexe.
Exact.
Par contre, j'en ai peut-être une plus simple pour toi. Nos clients nous soumettent tout le temps des idées qui pourraient peut-être vous aider dans ton équipe. J'en ai une bonne ici de Le King. Peut-être pas son vrai nom. Il propose... Moi, je comprends pas pourquoi, à la sortie des barrages, il y a tellement de débit d'eau, on pourrait avoir des hydroliennes qui pourraient, à plusieurs endroits sur la rivière. Donc... Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut réutiliser l'eau en bas? Comment ça se passe?
Bien, en fait, une hydrolienne, là, pour faire un petit parallèle, ça peut ressembler à une éolienne, mais plutôt qu'utiliser l'énergie du vent pour produire de l'énergie, ça utilise l'énergie du courant ou de la marée.
Donc,
Comme dans hydrolienne, exactement. Donc, c'est une turbine qu'on vient appuyer dans le fond d'un cours d'eau et qui est activée par le courant ou la marée. À l'heure actuelle, c'est pas une technologie qui est très, très avancée. Je dirais même que c'est pas mal au stade embryonnaire. On a commencé à regarder un peu plus ça au début des années 2000. Cependant, la plupart des projets tests qui ont été faits un peu partout dans le monde ont eu des résultats plutôt mitigés. Fait que, surtout au niveau technique, il y a encore beaucoup de choses qui restent à démontrer, puis il y a encore beaucoup d'incertitudes. Puis même au niveau environnemental également, on connaît pas là quels impacts ça va avoir sur les milieux marins, la libre circulation des poissons.
Mmh. C'est ce que j'allais te demander justement. J'avais lu, comme c'est assez récent, on n'a pas assez de données pour savoir si d'un point de vue environnemental, c'est une solution qui est intéressante. Donc, comment ça fonctionne à ce niveau-là? Combien de temps ça prend avant qu'on puisse déterminer si une technologie est bonne d'un point de vue environnemental?
Ça, c'est difficile à dire, là. Ça dépend beaucoup.
C'est du cas par cas.
Ça dépend aussi dans quel milieu on vient implanter l'hydrolienne. Cependant, c'est certain que tant qu'il n'y a pas eu plus d'essais qui ont été faits, c'est difficile à dire pour l'instant.
Il n'y a pas aujourd'hui de pays là, qui ont massivement misé sur les hydroliennes. Vous avez, nous autres, là, ça va être ça, notre source d'énergie. Il n'y en a pas.
Bien, en fait, le Royaume-Uni, c'est probablement ceux qui sont le plus avancés parce que c'est eux qui semblent avoir le plus grand potentiel. C'est probablement eux qui ont fait le plus de projets types. Mais même ça, de mémoire, il y a peut-être quelques centrales officielles qui ont été mises en service commercial, mais ça ne donne pas nécessairement les résultats escomptés. Puis,
c'est pas beaucoup de mégawatts nécessairement déployés encore dans le monde.
Non,
mais
pour
au moins une bonne raison, l'hydrolienne a une longueur d'avance sur toutes les autres méthodes de production d'énergie, parce que si jamais ça devient proéminent puis qu'on utilise ça vraiment beaucoup, on n'aura pas besoin de changer le nom d'Hydro-Québec. Il y a quelqu'un qui nous faisait remarquer ça récemment.
Vu comme ça, je suis bien d'accord, mais c'est ça. Il y a encore un peu de croûte à manger avant qu'on puisse dire oui, ça vaut la peine de développer un grand parc d'hydroliennes.
Il y a des meilleures sources de production.
C'est ça. Puis à l'heure actuelle, c'est encore une des avenues les plus coûteuses là, à déployer, puis vraiment...
Oui, il y a les coûts, évidemment, c'est
exactement.
Ça. T'as le coût environnemental qu'on n'est pas sûr, les coûts, c'est cher, donc c'est pas tant intéressant, finalement. Mais tu disais tantôt, l'hydrolienne, on peut en installer aussi en mer ou pour la marée, tout ça. Il me semble que c'est quelque chose que les gens nous disent, hey, on a des marées, nous autres, au Québec, on pourrait...
Oui, exactement.
Donc ça, c'est-tu plus compliqué ou...
En fait, dans le monde, là, les efforts de recherche et développement sont plus portés vers les hydroliennes à l'énergie marémotrice. Donc, parce que, justement, c'est un petit peu plus... techniquement, là, c'est plus facile d'avoir les bonnes conditions pour venir installer une hydrolienne. Fait que, dans le fond, ça va être une hydrolienne bidirectionnelle pour justement quand la marée monte, descend, que ça puisse être activé des deux côtés. Fait que vraiment, c'est plus concentré là-dessus là, en ce moment, les études. Là.
C'est prévisible aussi. On peut beaucoup prédire plus les marées avec une certaine c'est justesse. Ça. Au Québec, si je ne m'abuse, les marées les plus importantes, c'est dans la baie d'Ongava.
Exactement.
Donc là, il y a un enjeu de transport parce qu'on peut bien produire des électrons, mais il faut les amener au réseau.
Un peu loin.
Ça vient
pour toutes
aussi
ces raisons, entre un bassin d'anguilles électriques et des hydroliennes, ça serait quoi le plus prometteur?
Ah, ben là, je le sais pas trop. Là.
Vous n'utilisez pas les anguilles dans ton équipe?
Ben, en fait, c'est un peu exploiter des êtres vivants, fait qu'on n'est pas rendu là.
Excellente réponse. Excellente réponse.
Si on les payait?
Peut-être.
J'ai un autre exemple ici, puis je pense que c'est quelque chose qui va nous intéresser particulièrement dans les prochaines années. Jean-Yves nous a écrit, il dit « Je voulais seulement vous faire une suggestion. J'apprenais par le biais des médias que la société avait perdu près de 500 millions de dollars à cause de la baisse du niveau de l'eau dans les réservoirs. Serait-ce possible de pomper l'eau de nouveau dans les réservoirs pour éviter que cette situation ne se reproduise? » Puis je pense qu'il a inventé sans le savoir une technologie qu'on regardait déjà.
Alors oui, c'est possible. En fait, on appelle ça des centrales à réserve pompée. Puis je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder le plan d'action 2035, mais dans les actions oui. À l'horizon 2035...
Oui, Michael. On l'a vu. Ouais.
Donc, à l'horizon 2035, il est prévu justement de mettre en service une première centrale à réserve pompée dans le parc de production d'Hydro-Québec. Donc, en fait, comment ça fonctionne? C'est un peu le même principe d'un aménagement hydroélectrique conventionnel. Donc, on a une turbine, on a un réservoir supérieur et un réservoir inférieur. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est quand on a besoin d'énergie, on turbine l'eau du réservoir supérieur vers le réservoir inférieur. La seule différence par rapport à un aménagement qui est conventionnel, c'est que quand ton réservoir supérieur est vide, tu ne peux plus produire et comme ce n'est pas installé sur une rivière, tu es obligé de repomper l'eau qui est située dans le réservoir inférieur pour la remonter dans ton réservoir supérieur. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un dispositif de stockage. Donc, ça permet d'utiliser ton énergie, ta puissance, à des moments plus spécifiques où tu en as besoin.
Mais tu utilises de l'énergie, dans le fond, quand même, pour pomper l'eau. Donc,
c'est ça.
Tu déplaces la consommation, dans le fond, au lieu de la produire. Là. Mais mettons qu'il pleut beaucoup, est-ce qu'on peut remplir le réservoir en haut?
Ben non, mais c'est certain qu'on ne va pas mettre un toit par-dessus le réservoir pour pas qu'il se remplisse quand il pleut. Effectivement, ça peut se remplir, mais ça prendrait quand même une bonne ondée.
Au point où le réservoir se remplit, là, commence à bâtir une arche tout de suite.
Oui, je pense que oui, c'est ça.
Dans le fond, cette technologie-là, elle servirait, ce type de production-là servirait principalement, par exemple, dans les pointes.
Bien, notamment les pointes, mais ça peut aussi être utilisé un peu en combinaison avec les sources de production variables comme l'éolien. Ça permet justement, quand les éoliennes fonctionnent puis qu'on a en dehors des pointes ou quand la demande est plus faible, bien, ça permet justement d'utiliser les surplus du parc éolien pour, recharger ton réservoir supérieur.
Puis, c'est comme une grosse batterie, finalement.
C'est ça, exactement, sauf que c'est une batterie à l'eau.
Mais les pointes, en passant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, on ne parle pas de pizza ici, c'est les pointes de consommation d'électricité. D'ailleurs, on vous invite à écouter l'épisode qui parle
excellent
bien de
tout ça.
C'est vrai, on a fait ça.
On a fait ça, saison 1.
Ce qu'on n'a pas fait, par contre, c'est subir un quiz de ma part.
J'ai hâte.
Donc, on va parler d'autres sources d'énergie, évidemment, puisque c'est le thème de l'épisode. J'ai des questions pour vous sur les clients d'Hydro-Québec qui utilisent d'autres sources d'énergie.
Si vous avez besoin d'aide, je vois les réponses d'où est-ce que je suis.
Faut pas tricher.
Moi, je vois les... Ouais.
Donc, ma première question, combien y a-t-il de clients résidentiels qui s'alimentent partiellement à l'aide d'une ou de plusieurs éoliennes privées?
Des éoliennes? Ah, attends. On connaît beaucoup pour les panneaux photovoltaïques, mais...
Il y en a genre 6.
Moi, j'aurais dit 120.
Ouais. Une cinquantaine.
Ma tante en a une.
Oh. C'est vrai? Eh bien, la réponse, c'est 8. Donc, Jonathan est quand même assez habile. Si on ajoute les éoliennes des clients commerciaux ou industriels, on arrive à quel chiffre?
30?
10.
Ah.
Il y en a deux.
Ma tante est vraiment spéciale.
Vraiment. C'est assez unique. Combien a-t-on de clients résidentiels qui s'alimentent partiellement avec des panneaux solaires privés?
3 000.
800.
Ah, non, excuse, 8 000. Attends, je vais rechanger ma réponse peut-être une autre fois.
Moi, je dirais 835.
835? Moi, 836, je pense.
OK. En date du d'octobre dernier, c'était 785 clients qui avaient des panneaux solaires.
J'avais vraiment surestimé ça. Ma tante... Non, c'est pas vrai.
Quelle est la puissance combinée de tous ces panneaux solaires privés, selon vous?
Oh!
Oh, ça, c'est...
Oh, ça, c'est tough.
Ouais, c'est ça, parce que ça ne fait pas tant que ça sur une maison, là. Moi, je dis, mettons, 2 mégawatts.
Combiné?
Ouais. La puissance, donc on parle de mégawatts.
J'aurais dit peut-être
4
8.
Mégawatts.
Si peu que ça.
Francis Labbé, 4,3 mégawatts.
C'est beaucoup. Je pense que c'est la première bonne réponse que j'ai dans un quiz depuis,
qu'on a commencé à,
faire des quiz.
Combien de clients se sont débranchés complètement de notre réseau et vivent de façon autosuffisante avec un système de production indépendant?
Comment on a
comment c'est ça? On était, on s'est promené dans le bois.
Hey, c'était une question piège. Parce que la réponse est, on le sait pas, c'est pas nos clients.
Impeccable. On s'est promené dans le bois.
Et ma dernière question, mais non la moindre. Combien de nos clients s'alimentent à l'aide de l'énergie libre?
L'énergie libre, c'est une très bonne question.
J'ai l'impression qu'on va en reparler un peu plus tard de ça, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup.
Ben ouais, vous avez raison, tout le monde, aucun client, parce que le concept même de l'énergie libre contredit une des lois de la thermodynamique. Les machines à mouvement perpétuel, c'est pas quelque chose qui existe malheureusement, au risque de briser les rêves de certaines personnes. Tous les travaux réalisés afin de concrétiser un tel dispositif ont été démentis par des expériences scientifiques approfondie. C'est donc une chimère.
C'est pas nous qui cache cette technologie-là quelque part dans la cinquième sous-sol.
Oui, c'est ça.
Peut-être aux archives, cachées entre deux boîtes de vieux documents.
À côté du moteur roue.
Oui, tout à fait. Voilà.
Justement, je pense qu'il y avait une autre technologie qui vous intéressait, la géothermie.
Oui, je l'ai pas mis dans mon quiz parce que c'est pas une technologie qui est très populaire, mais on nous en parle quand même occasionnellement. Donc, Pascal qui nous avait tweeté ceci. Et la géothermie, avec un point d'interrogation.
La question la plus simple que tu vas avoir de notre part aujourd'hui.
Là, je peux élaborer quand même assez longtemps là-dessus. La géothermie, ça peut s'exploiter de deux façons. La géothermie de surface, qui est utilisée principalement pour le chauffage et la climatisation des bâtiments. Ce type de géothermie-là, dans le fond, est quand même utilisé au Québec. Et Hydro-Québec a même des subventions pour aider les clients qu'ils souhaitent là, à convertir leur
système.
Logivaire, exactement.
Okay.
Donc, ça, en fait, ce type de géothermie-là ne permet pas de produire de l'électricité. Par contre, ça l'économise de l'énergie.
Donc, ça génère de la chaleur ou de la fraîcheur, dans le fond, dépendamment de...
Parce qu'on dit souvent, là, au Québec, vraiment, on a des bâtiments qui sont des passoires énergétiques.
Exactement.
Donc, ça permet justement d'aller récupérer.
C'est sûr que, bon, le coût d'installation de ces systèmes-là, c'est quand même assez coûteux. Fait que souvent, c'est privilégié plus dans les nouveaux aménagements, les nouvelles maisons.
Je pense
que
les plus gros bâtiments aussi, peut-être.
Des logements multiples.
Oui, c'est ça. Mais bon, il y a peut-être une possibilité éventuellement qu'il y ait plus de clients qui migrent sur ce type de chauffage, climatisation-là.
Est-ce qu'on préfère la géothermie, mettons, pour dire, comme une personne tout seule, ça ne serait pas super payant de faire ça dans un petit bâtiment, on dirait, on va faire de la géothermie, mais on va partager le résultat avec tout un quartier, par exemple?
Okay. Bonne question, mais c'est à explorer. Je vais en parler à notre équipe, puis on pourra peut-être vous revenir là-dessus éventuellement.
C'est toujours une des choses les plus épeurantes au monde, c'est les flammes de l'enfer, mais nous, on a trouvé une façon de les rentabiliser.
Si on veut. Bien, en fait, pour ce qui est des flammes de l'enfer, en fait, c'est de la géothermie en profondeur. Donc, on va chercher la chaleur qui est située à des profondeurs allant jusqu'à 5 km. Donc,
okay, c'est
quand même assez
c'est
creux.
Très profond.
On se rapproche.
Puis, pour être vraiment efficace, idéalement, là, c'est de la géothermie hydrothermale. Donc, on exploite, dans le fond, l'eau chaude ou la vapeur d'eau qui est emmagasinée dans des petites...
Dans des poches de la croûte, la croûte terrestre, dans le fond.
Ça. On dirait un service offert dans un spa scandinave.
Bien, en fait, exactement. Il y en a, on peut l'imaginer, là, en Islande, il y a une centrale en géothermie hydrothermale qui fait 100 mégawatts. Puis ça, c'est très efficace parce que, justement, on utilise directement l'eau qui est déjà chauffée naturellement.
As-tu combiné un spa avec la centrale, sais-tu?
Ça, je ne l'ai pas vu, mais ça peut être intéressant pour leur dîner.
C'est plus de 20 fois la puissance totale combinée des panneaux solaires de nos clients résidentiels. Quand même.
Rien de moins.
Impressionnant.
Rien de moins.
La géothermie, c'est évidemment une des solutions dont les gens nous parlent, mais il y en a d'autres qui sont... Peut-être que tu n'en as pas encore entendu parler. Il y a Bob qui nous avait dit géothermie, roue à eau, panneaux solaires, éoliennes. Si tu ne veux pas dépendre de Hydro-Québec, il y a des moyens. Est-ce qu'on peut parler de la roue à eau?
La roue à eau, est-ce qu'on parle...
Je ne sais pas de quoi on parle.
Pour faire simple, quoi c'est ça?
Mais moi, quand j'entends ça, je visualise comme dans l'ancien temps, quand on avait une espèce de moulin sur le bord de la rivière. Est-ce qu'on
parle de moulin? Bien, tu sais, dans le fond, si on prend nos centrales hydroélectriques, c'est un peu ça, une roue à eau, là, qu'on le veuille ou non.
Fait qu'on l'a déjà, on peut y dire ça.
Mais lui, il voulait s'en servir pour se débarrasser d'Hydro-Québec, donc il est peut-être un peu mal pris.
Il faut qu'on y prête une turbine.
Donc, est-ce que quelqu'un peut avoir un moulin à la maison? Ah, peut-être.
Bien, c'est ça. Peut-être en utilisant une roue d'un moulin comme ça, puis en convertissant, en mettant l'alternateur et tous les systèmes électriques nécessaires à la production, ça pourrait être possible, mais quand même assez coûteux et peut-être pas aussi efficace que nos belles installations.
J'ai quelqu'un, moi, ici, Stéphane, qui nous parle. Il dit, avec le biogaz, est plus performant sur le plan des GES que l'hydroélectricité. De plus, il offre une source d'énergie alternative. Il n'y a aucune raison logique pour l'interdire. Donc, le biogaz...
Est-ce que c'est interdit déjà?
Je ne sais même pas.
Non, ce n'est pas interdit. Ouais. Je m'y connais un petit peu moins là, dans ce domaine-là, mais ce que je sais, c'est que la disponibilité en ce moment est très faible. Et ce n'est pas vrai que ça produit moins de GES que l'hydroélectricité. Alors,
ça reste quelque chose qu'on fait brûler, dans le fond.
Bien, c'est ça. Dans le fond, on remplace, par exemple, des hydrocarbures d'une centrale thermique par un biogaz. Mais c'est ça. C'est pas...
Une question de volume qui va être plus difficile à aller chercher. Donc,
exactement.
Si on va aller chercher beaucoup de production, beaucoup de puissance, par exemple, bien là, on n'a peut-être pas la disponibilité. Non?
Exactement. Okay. Puis, tu sais, ça va prendre également tout le système de transport de ces biogaz-là vers les centrales. Donc, ça devient un peu complexe.
Donc, c'est pas interdit, mais c'est pas très répandu et c'est pas quelque chose avec quoi on va révolutionner le monde. Pas tout de suite, en tout cas.
Il y a mieux, je pense, au niveau décarbonation.
Au Québec, c'est un peu plus répandu, mais en même temps, dans ton quiz, on a vu que c'était pas tant le cas. C'est les fameux panneaux photovoltaïques. Ouais. Je pense que les gens voient ça comme la solution miracle pour s'alimenter, être autosuffisant, plus payer de comptes au Québec. Mais ça reste quand même un projet coûteux. On a Dany qui nous avait posé une question sur le sujet. Il nous a dit « Il faudrait tellement développer un système de panneaux solaires résidentiels. Il commence à être plus abordable pour emmagasiner l'énergie durant le jour lorsque les gens sont partis au travail. Vous pourriez développer une expertise qui vous permet d'installer et ou faire la maintenance en sous-traitance. Je pense que ce serait une solution pour les maisons parce que les maisons neuves et ou récentes sont pas mal optimisées. Si on fait le moindrement attention, on peut consommer au minimum assez facilement. Donner des subventions pour l'installation de panneaux aiderait. » Il y a beaucoup de choses dans cette
question. Oui, effectivement, je suis un peu
perdue. Mais si on décortique, en fait, là, nous, on n'a pas de subvention pour l'installation de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques résidentiels. Ce n'est pas nécessairement la solution la moins coûteuse pour un client là, de s'installer lui-même des panneaux.
Non, c'est sûr que ce n'est pas le moins coûteux. Cependant, ça peut quand même aider un petit peu pour les besoins de base, mais il faut garder en tête qu'un panneau solaire, ce n'est pas la solution à tout. On le sait que le soleil, là, c'est une des sources assez variables. Donc, à chaque fois qu'il y a un nuage qui passe...
L'hiver, c'est assez dur.
Mais là, d'énergie. On devrait emmagasiner cette énergie-là pendant le jour.
Lui,
là,
il a besoin d'une batterie, en plus.
C'est certain qu'un système de panneaux photovoltaïques combiné avec une batterie, ça peut être un avantage parce que, justement, ça te permet d'emmagasiner puis utiliser ton énergie quand t'en as vraiment besoin.
Donc, il dit « on devrait », mais ce qu'il devrait dire, c'est « je devrais », puis aller s'en acheter.
Peut-être, mais c'est quand même assez dispendieux, tant pour le résidentiel que...
Mais sur notre site, on a une calculette, justement, là, qui permet d'estimer combien ça coûterait, combien ça pourrait rapporter notre installation de panneaux solaires. Ça permet de bien estimer les coûts. Je pense qu'à tort, il y a certaines personnes qui ont l'air de penser qu'on veut les empêcher de le faire, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que, réalistement, il y a quand même des coûts, il y a de l'entretien. C'est pas une solution magique non plus, le panneau photovoltaïque.
Non, c'est sûr que non. Mais ça peut quand même contribuer, ce qui est pas une mauvaise chose, mais la rentabilité est peut-être pas là encore. Là.
Donc, si jamais ça continue à se développer puis les coûts diminuent, on pourrait voir ça arriver plus massivement dans les prochaines années, surtout dans une optique où on veut avoir plus de production d'électricité, tout ça, on risque d'en voir plus apparaître sur le réseau. Là.
Il y a de fortes chances. Mais
plus que 785.
786, il y en aura.
On a une dernière question qui était en lien un petit peu avec l'énergie libre que j'ai mentionnée tout à l'heure. On a quelqu'un qui s'appelle Liberté sur Twitter. Est-ce qu'on est surpris de ce nom?
Pas tellement.
Il y a l'énergie libre qu'il nous cache, car cette énergie coûte rien à fabriquer et gratuite, tout comme les voitures qui fonctionnent à l'eau. Les voitures qui fonctionnent à l'eau. Je répète, les voitures qui fonctionnent à l'eau.
Bon, il y a toutes sortes de principes, il y a toutes sortes de choses qu'on voit passer, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune démonstration qui a été faite que ça fonctionnait vraiment.
J'ai vu un TikTok, par exemple.
C'est ça, mais en fait, c'est tout ce qui est énergie libre pour le moment, puis ça rentre un peu dans la même famille. C'est pour le moment, on n'est pas capable de démontrer que c'est basé... En fait, ça va un peu à l'encontre des principes scientifiques de base. Donc, ça n'a pas été démontré que ça fonctionne. Puis à chaque fois qu'il y a eu des supposées nouvelles inventions ou des choses qui sont sorties, bien... qui devait fonctionner, ben ça a toujours été démenti par la suite. Donc
vous n'avez pas un laboratoire caché dans ton équipe avec une voiture à l'eau? Puis...
Je ne vous le dirai pas.
Ah. C'est dans la même famille que trop beau pour être vrai.
Ben, en tout cas, à l'heure actuelle, oui. Éventuellement, peut-être, mais pour l'instant, je n'ai pas nécessairement des bonnes nouvelles pour
éventuellement,
vous.
Peut-être.
Éventuellement, peut-être.
On ne le sait pas, là.
Donc, en conclusion, ce qui nous éclairera dans une centaine d'années, qu'on ne connaît pas encore cette technologie-là. L'énergie libre, c'est quelque chose qui n'est pas encore sur nos écrans radar. Et l'électrolyse, c'est quelque chose qui sert à faire de l'hydrogène et non pas seulement pour l'épilation. J'espère que j'ai bien résumé.
Exactement.
Merci beaucoup, Marie-Ève, de votre présence. Et merci à vous de votre écoute. Et à une prochaine.